Résonance du feu.
En 2022, durant un été brûlant, un feu d'origine accidentelle a consumé près de 1300 hectares de zone boisée sur la commune de Mostuéjoul, en Aveyron. 2 ans après, que reste-t-il comme trace et mémoire de cet incendie pour les habitants ? Je m'appelle Elsa Souchet et vous écoutez une série documentaire produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journaliste. Épisode 2, vivre avec le feu.
Et on commence avec ces incendies qui se multiplient partout en France.
En Aveyron, la nuit dernière, 3000 personnes ont dû être évacuées à cause d'un feu qui a brûlé 700 hectares de végétation depuis hier soir dans les gorges du Tarn. On est du côté de Mostuéjoul, c'est une vingtaine de kilomètres au nord de Millau. 600 pompiers sur place et le feu n'est pas fixé. Les secours redoutent désormais la levée du jour et le retour de la chaleur intense.
Incendie jour 2. L'Aveyron est monté à la une de l'actualité nationale dans la rubrique des feux de l'été. Même si 3000 personnes ont dû être évacuées au cours de la nuit, du lundi au mardi, la haute vallée du Tarn ne s'est pas arrêtée de vivre pour autant. Dans les villages voisins de Mostuéjoul, le Rosier, Perrelot et à la sortie des gorges du Tarn, il a d'abord fallu gérer l'urgence. La nuit de l'évacuation, tout le monde, comme Marion, restauratrice au Rosier, est sur le qui-vive.
Donc on a été chercher tous les matelas, les couettes, les oreillers qu'on pouvait aux étages. On a mis ça au-dessus du toit des voitures. Puis on a chargé la voiture aussi avec genre du lait, du café, du thé, jus d'orange, ce genre de choses. Parce que y a l'urgence, il faut bien que les gens dorment quelque part cette nuit. Et puis y a demain matin, le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va faire quoi. Et puis on va commencer à installer comme on peut la salle des fêtes avec, je crois qu'on a réuni une cinquantaine de matelas, quelque chose comme ça, sur la salle des fêtes. Et puis les voitures des gens ont commencé à arriver, donc en premier, il faut les accueillir, leur dire, essayer de les rassurer. Il y en a qui ne comprennent pas du tout ce qui s'est passé, et il y a des enfants dans les voitures, il y a des enfants qui ne comprennent pas, qui paniquent peut-être un peu. Il faut essayer de rassurer tout ce monde et se dire que on est là pour eux et qu'on est tous ensemble quoi.
Moi je m'appelle Marie et je suis chef de cuisine à l'auberge de Perrelot.
Et moi c'est Maxime Laborie, je suis son associé qui s'occupe de la salle à l'auberge.
D'abord tu agis et après tu réfléchis à ce que tu es en train de faire. Et du coup, on est tous rentrés dans nos maisons. On s'est organisé le plus vite possible pour déjà essayer de faire des covoiturages, pour se réunir, être nombreux, avoir des véhicules, pouvoir charger nos affaires et se donner des timings. Du coup, on est revenu là parce que sur le coup, on ne savait pas spécialement où aller.
Ouais, et puis du coup, comme on a aussi des appartements au-dessus de l'auberge, on a pu un peu répartir comme ça de manière urgente. Des espaces pour que chacun puisse dormir.
Rapidement, t'as d'autres besoins fondamentaux comme prendre une douche. T'as pas ce confort là ici quoi. C'est un restaurant quoi, c'est pas prévu pour. Et après, il y a des gens du village qui se sont présentés, qui avaient des résidences secondaires et qui nous ont proposé de nous héberger le temps que durerait l'incendie.
Dans cette situation là, ça a été nécessaire et très important pour nous dans le bon fonctionnement de l'auberge aussi, pour pouvoir avoir un minimum de confort, pouvoir se reposer et en continuer à avoir un travail qui reste acceptable pour les gens qui viennent chez nous, parce que malgré tout, il y a plein de gens qui étaient ici en vacances et qui étaient un peu moins impactés par ce qui se passait et pour qui la vie continuait normalement. Donc nous, on est un peu sous le choc, carrément fatigués, et les gens continuaient à venir prendre des cafés, vouloir manger.
Nombreux sont ceux qui ont alors ressenti un certain décalage. D'un côté, celles et ceux d'ici, qui tentent de maintenir un quotidien sous la menace du feu qui continue là-haut, dans la montagne. Et de l'autre, une partie des vacanciers, qui font presque comme s'il ne se passait rien et qui veulent quand même profiter aux terrasses des cafés et restaurants ou en bord de rivière, là où s'étaient réfugiés des habitants sans solution d'hébergement.
Quand tu vois en direct brûler le paysage dans lequel toi tu as l'habitude de vivre et dans lequel tu te sens bien, bah, si tu n'as pas un parallèle de quelque chose d'hyper positif, ça devient vraiment compliqué. Et je pense que ça n'aurait pas été un bon choix que de fermer le restaurant, tu vois, même si effectivement il y a un décalage parce que bah, toi tu es éventuellement plus ému, plus impacté par ce qui se passe que des gens lambda qui ne comprennent pas forcément à quel point ça peut être déstabilisant pour toi. Bah, ça t'oblige aussi à sortir de ta petite bulle, de ton truc, du problème où tu n'as pas de toute façon de solution à proposer, tu vois.
Ça a été des journées assez compliquées parce que c'est normal dans une situation comme ça, tout le monde est un peu en stress. Vous allez n'importe où, vous allez au bureau de tabac, vous allez au magasin, vous voyez bien les yeux rouges de vos copains, des voisins. Vous voyez bien que tout le monde est inquiet, tout le monde n'est pas bien. Et donc forcément, ça installe un sentiment étrange. Et certains touristes sont énervés parce que je vais avoir des réflexions. Vous vous rendez compte, il y a de la cendre qui est tombée dans mon verre de vin. Vous allez bien me changer ça. Et oui, pas la peine de s'énerver. Bien sûr, je vais vous changer votre verre. Mais on sent que tout le monde est excité. Ouais. Y en a d'autres qui sont très fâchés parce que leur circuit de randonnée est modifié. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils avaient prévu d'aller faire une randonnée à Mostuéjouls aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire, alors ils sont fâchés. Certains vont se plaindre qu'il y a plein de camions de pompiers sur la route et que du coup, ils sont légèrement retardés dans leur planning. Et c'est vrai que ça, c'est très dur à entendre sur ces moments-là. Ça peut donner à certains moments envie de fermer le resto. J'ouvre parce que j'aime vraiment les gens, puis j'aime recevoir et voilà. Mais j'ai pas envie d'entendre ce genre de remarques. Je comprends que ce soit triste pour vous, que vos vacances soient modifiées, mais pensez un peu aux conséquences pour tout le monde, là.
Il y a des touristes qui sont arrivés pour se baigner à la plage des Basaltes. Une dame qui est venue vers nous et qui a fait une remarque à haute voix en disant que c'était inadmissible, que c'était pas un camping ici. Et là, je me suis énervée. Et elle a même pas compris, en fait, pourquoi je m'énervais, que, en fait, je pouvais pas rentrer chez moi. Et qu'elle était en vacances, et qu'elle allait se baigner à la plage, alors qu'en fait la montagne brûlait. Ça, c'était violent. Cette espèce de monde à deux vitesses, là, avec les gens qui étaient là, qui continuaient leurs vacances, quoi. Et aller à la plage, alors qu'il y avait de la cendre partout et que ça piquait les yeux. Avec la fumée dans le fond de la vallée, enfin, c'était quand même bizarre, quoi.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour, Sébastien. Dans l'Aveyron, là, la situation est beaucoup plus favorable. Le feu qui a ravagé 600 hectares ne progresse plus.
Les pompiers restent prudents. L'évolution reste incertaine en raison du vent. Et les 3000 personnes évacuées ont dû à nouveau passer la nuit loin de leur maison ou de leur lieu de vacances. Heureusement, dans ces moments-là, la solidarité est au rendez-vous.
Les gens de la vallée n'ont pas seulement pris en charge les évacués et fait tourner les boutiques. Rapidement, beaucoup vont vouloir aider plus directement les 700 pompiers qui sont arrivés des Bouches-du-Rhône, de l'Ariège, du Gard, de tout le sud de la France pour éteindre cet incendie.
À partir du mercredi, on a commencé à cuisiner pour eux. On n'a pas fait grand-chose, on a fait une cinquantaine de repas sur 3 jours. Où on faisait une petite entrée, une petite salade, on essayait de leur faire des petites infusions, des boissons chaudes, des boissons fraîches, on a fait des petites mousses au chocolat en se disant que ils passent pour certains la nuit entière à combattre le feu, mais peut-être qu'une petite mousse au chocolat, ça fait plaisir et ça leur montre notre appréciation, quoi.
Il faut savoir qu'on a logé quand même énormément de pompiers, bien qu'ils aient leur capacité de logement, eux. Mais il faut s'imaginer qu'on les a accueillis dans nos maisons, dans nos foyers, qu'on a nourris, encore entre guillemets, c'est pas les nourrir parce qu'ils sont morts de faim. La cantine des pompiers, c'est très bien, mais ça leur fait très plaisir quand on peut un peu bénévolement changer leur quotidien, quoi.
Ainsi, à l'arrière des bataillons du feu, en complément de la logistique des pompiers, une troisième ligne de solidarité se met en place. Un soutien que la préfecture, chargée de coordonner les secours, n'a pas pu intégrer dans son organisation globale, comme l'explique Alexandra Kalis, au service de défense et de protection civile.
Nous avons été assez surpris, vraiment, de la générosité des gens, leur implication, la volonté aussi d'aider. Ça, c'est vrai que ça a vraiment été quelque chose qui a été surprenant. Enfin, encore que certains n'en seront pas surpris, mais je veux dire, non, c'est pas quelque chose qu'on va intégrer parce que tout simplement, n'importe quel incident qui arrive, on ne sait pas la manière dont il va opérer, où il va opérer, qui va être concerné. Donc on ne peut pas compter justement sur le fait que les gens sont autonomes, sont indépendants, sont acteurs, etc. etc. On fait toujours en fonction de comment nous on coordonne, quels sont les moyens qu'on a pour agir, etc. C'est quelque chose qui vient en plus, qui n'est pas pris en compte, je veux dire, dans l'aspect purement opérationnel de notre planification.
Et les pompiers mobilisés dans toute la France contre les incendies.
Ils sont 500 en Aveyron à lutter contre le feu qui a brûlé 700 hectares depuis lundi soir dans le secteur de Mostuéjouls. C'est dans les gorges du Tarn, à une vingtaine de kilomètres au nord de Millau. Incendie qui a progressé hier. Les habitants de deux nouveaux lieux-dits ont dû être évacués en fin d'après-midi.
Malgré les importants moyens, le feu dure et s'installe dans le paysage, au milieu des alertes canicules et de la sécheresse. Chaque midi, ça refume par endroits et ça repart. Avec vue sur la montagne noircie, Fanette récolte les fruits des vergers, tandis que tout en bas, Aude est déjà presque au chômage technique à la location des canoës. Et partout, on surveille et on croise les doigts.
Ça faisait une espèce de yo-yo assez désagréable, pour moi en tout cas. Moi, j'ai pas arrêté de travailler, puisque c'était la saison, il fallait ramasser les fruits, tout ça. Donc, la chaleur... Le vent, ce sont des facteurs combinés qui rendent la chose presque prévisible, on va dire. À chaque fois que les heures s'égrenaient, le matin, je me disais, c'est 10 heures. La température monte, c'est 10 heures et demie, c'est 11 heures. Et tout ça qui se potentialise, et je guettais, en fait. Et puis les fumerolles, une à une, se rallumaient sur les pentes du Lébousse, et c'était reparti. Et c'était ça, en fait, ça a été ça pendant une semaine.
On était un peu inquiets pour les habitations, mais après, c'est vrai que les pompiers nous ont dit qu'ils étaient bien assez nombreux et avaient assez de matériel pour protéger bien la ville. Ça fait bizarre. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de travail. De fait, on sent déjà aussi une baisse économique du fait, bon, bah, bien sûr, l'activité canoë s'arrête. Puis les gens sont inquiets. Et puis, beaucoup n'ont pas pu passer ou n'ont pas réussi à trouver. Donc, il y a ça. Mais ça, c'est comme un peu au deuxième plan. C'est pas grave. Et oui, c'est chaotique. On est un peu comme désespéré. Et encore plus de sentiments d'impuissance, parce qu'on voit que ça continue, en fait. Et on sent que ça va pas s'arrêter de sitôt.
Et puis il y a les autres, comme Jean-Paul, Gilles et les bonnes volontés qui voudraient bien faire plus. Parce qu'ils connaissent les chemins, qu'ils savent comment contenir un départ de feu. Et ceux-là, on leur demande parfois de rester en retrait, pour leur sécurité. De quoi générer une certaine frustration.
Et alors, moi j'étais monté comme ça avec une pelle, bon, parce que j'avais que ça. Enfin, des fois il y a eu des petits départs d'incendie là, de droite, de gauche, sur l'Iocouze, là. Et j'avais été avec ma pelle, c'est efficace. Pas sur des flammes de 10 mètres, mais si vous avez des flammes de 50 cm, même 1 mètre, là, à tapant, à mesure, là. Alors après, ça a pris des sandus, des pompiers, des camions, et il y en a un qui s'est arrêté, là. J'ai voulu un coup de main, là, pour tirer les... C'est vrai, rien ne serait-ce que pour tirer les caoutchoucs. Un par-ci, par-là, ça aide les pompiers à se concentrer ailleurs. Et ils ont dit non, ne montez pas, parce que c'est trop dangereux. Et ben, après, oui, à force de faire, en fin de soirée, si, après, il y a des chefs là, qui sont passés avec un duster, là. Et je leur ai dit, mais parce que le feu, il descendait, j'ai mis, il y a un chemin, alors après, ils m'avaient pris dans leur voiture, et j'avais été leur faire voir, là, de par la BCD, pour faire voir un accès, quoi, pour y aller avec les camions.
J'ai l'habitude du feu, parce que j'ai été dans la marine, et j'étais renfort feu, en tant que groupe des services de sécurité sur les bateaux, on est renfort feu. Comme je leur ai dit, les gars, donnez-moi une tenue, quoi. Donnez-moi une tenue, faites-moi monter dans un camion, je viens, quoi. Parce que je savais à peu près ce qu'il fallait faire et les consignes qui m'auraient été données auraient été claires. Ça, c'est un des éléments majeurs aussi qui a contribué à cette extension du feu, c'est qu'on n'a pas assez écouté les gens. Notamment les gens du pays. Les chasseurs, par exemple, même si je ne suis pas féru de chasse, pas du tout même, sont des gens qui connaissent parfaitement le terrain. Et quand ils disent « là, on passe », eh ben, c'est qu'on passe. Et quand ils disent « là, on ne passe pas », eh ben, c'est qu'on ne passe pas.
Ceux qui n'ont pas assez écouté, selon certains habitants, ce sont les politiques, au sens large, à toutes les échelles de décision. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se rend en Aveyron sur les lieux de l'incendie au cours de cette semaine d'août 2022. L'occasion pour lui de faire quelques déclarations officielles, filmées par les médias miavoix.com et BFM TV. Une présence pas forcément bien accueillie.
Moi, on s'est fait houspéter par les gendarmes qu'on n'avait pas le droit de passer, parce que moi je connais les petites routes, donc on était passé par des petites routes. Mais quand on est arrivé là-haut, le capitaine de gendarmerie nous a engueulés. Donc, pour aller voir quoi ? Un ministre qui, juste pour serrer les mains, qui, c'est tout, hein, et au revoir. Hein. Un hélicoptère, il a dépassé beaucoup de monde, pour rien. Quoi. Que là, si on avait eu tous les moyens d'avion, je pense qu'il l'aurait arrêté assez vite.
Bonjour Monsieur le Ministre, est-ce qu'on a en France suffisamment de moyens pour lutter contre tous les feux et si oui, pour combien de temps ?
Nous avons tous les moyens, la société civile, l'intégralité des moyens aériens. Nous avons fait un appel depuis 48 heures à nos amis européens. Les Suédois nous prêtent à partir de demain des avions. Les Italiens sans doute dans les prochaines heures, puisque vous savez que toute l'Europe est également touchée par les feux de forêt. Et ce mécanisme européen nous permet, en tout cas dans les prochaines heures, de pouvoir concentrer d'autres moyens aériens.
Quand on évoque les moyens aériens, en fait, on parle d'un nombre fini d'avions. 12 Canadair bombardiers d'eau, 8 Dash largueur de produits retardants. Et à ce moment-là, une dizaine d'incendies majeurs avaient lieu en même temps en France. Alors, il faut prioriser. Le vendredi, en Aveyron, le feu est déclaré comme fixé par les pompiers et un millier d'évacués peuvent rentrer chez eux.
Ben, dis donc, c'est bon, on voit plus, c'est vrai qu'on voyait plus de fumée, on a dit, ben, c'est impeccable. Là. Très bien, ils sont arrivés à l'arrêter.
Il n'y avait pas de traces d'incendie, en dehors du fait que il y avait les crêtes qui étaient brûlées, on le voyait bien, mais il n'y avait pas de mouvement d'avion, on n'avait pas de mouvement de pompiers particulier. Il n'y avait pas de fumerolles dans le ciel, il n'y avait plus rien.
Les moyens aériens sont alors repartis dans les Landes, où le feu menace à nouveau des habitations à Landiras. Et puis, le samedi, à Mostuéjouls, Philippe et Muriel sont alertés à la mi-journée.
Je suis parti avec ma voiture à Millau faire des courses. En partant, je suis passé par les poubelles de Mostuéjouls en bas au carrefour. Je me suis arrêté et j'ai vu qu'il y avait deux fumerolles, mais il n'y avait pas de flammes et c'était déjà brûlé. Et c'était des. T'avais l'impression que c'était des souches qui continuaient de fumer, quoi. Fallait y arrêter, ça, c'était fini. Bon, je suis parti. Et quand je me suis arrêté aux poubelles de Mostuéjouls, depuis les poubelles, je voyais les flammes. Il y avait des flammes de 80 mètres de haut. C'était pas à l'endroit des fumerolles, mais ça veut dire que le feu, il était reparti.
À 1h30, on avait un voisin, Nicolas, qui avait eu une cabane au bout du monde. Il m'appelle, il me dit il y a de la fumée dans le ravin. Et j'ai dit, bon, on a fini de manger, on y monte. Et c'est vrai qu'on voyait un panache de fumée. Et quand on est arrivé, ça avait déjà sauté et c'était vraiment des flammes, les flammes de l'enfer. Et là, j'ai appelé Madame le maire en lui disant... Ça a sauté au salcé, il n'y a personne, on est mort. Je savais où il allait.
Cette reprise fulgurante a été l'un des moments les plus marquants pour qui a vécu l'incendie de Mostuéjouls. Et pour moi aussi. Car je dois vous le dire, à ce stade du récit, durant l'été 2022, j'habitais dans le village, côté nord, près de la route qui mène au plateau. Avec ma compagne, nous avons fait partie des évacués le premier jour. Avant de rentrer le vendredi soir, quand le feu était en passe d'être maîtrisé. Ce samedi 13 août, je suis là, sur mon ordinateur, à mon bureau, volets et fenêtres fermées. J'essaye alors d'échapper à la canicule et aussi de me changer les idées après cette semaine intense. Et pour ça, je m'immerge virtuellement dans un monde onirique, subaquatique, le casque sur les oreilles avec cette musique. Il n'était pas encore 15 heures. Je nageais paisiblement au milieu des raies méduses, dans l'abysse des grands récifs, quand des sirènes perturbent mon attention. Je mets le jeu en pause, je me lève et j'ouvre la fenêtre, mais pas encore les volets. Je sens tout de suite l'odeur de brûlé. Puis, à nouveau, J'entends ces pompiers qui passent sur la route en bas, sirène hurlante et un hélicoptère au loin. Et j'entends un grondement sourd, très puissant, le feu. J'ouvre les volets et devant moi, c'est toute la crête, toute la montagne de l'autre côté de la vallée qui est en train de brûler, avec des flammes immenses, dantesques.
Ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. C'est un cauchemar.
Nous avons juste le temps d'être sidérés, effondrés, de préparer quelques affaires, embarquer le chat, et puis...
17h15, on évacue le village de Mostujuls.
Un gigantesque panache de fumée noire et des flammes qui s'étendent le long de cette crête dans l'Aveyron. Le feu de Mostujuls semblait fixé, mais tout a basculé en début de journée.
C'est totalement inattendu. Ça fait quand même, depuis lundi soir, les pompiers sont là. On pensait que le feu était plutôt contenu. C'est parti à toute vitesse avec un vent important. C'est parti très très vite comme une fusée.
500 hectares avaient déjà brûlé depuis le début de l'incendie, lundi dernier.
Comme l'explique Christine Bedel, la maire du village, alors interrogée par téléphone par France 2, tout le monde se demande comment le feu est parvenu à parcourir en 5 heures autant de surface qu'en 5 jours. Une question qui a généré beaucoup de rumeurs, de rancœur et de colère. Y a-t-il eu une erreur tactique, un manque de moyens ? Pour comprendre comment a pu se produire une saute de feu si brutale, rapide et violente, il faut revenir aux archives de cette journée. Un montage vidéo notamment, avec vue aérienne réalisée par les pompiers, permet de comprendre. À son bureau de la caserne de Millau, le lieutenant Lin Vidal, responsable de l'unité drone des pompiers de l'Aveyron, me décrit les images tournées ce jour-là.
Entre le moment où on a la reprise sur la partie droite du Talweg avec les moyens de secours et le moment où on a la saute de feu, il y a à peu près 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est très court en termes de lutte contre les feux de forêt. C'est vrai que c'est un secteur qui a un fort relief avec une végétation très dense. On est en début d'après-midi, donc les conditions météo, astrométéo sont quand même défavorables. Donc là, on s'aperçoit rapidement, on a vu qu'il y avait une reprise de feu sur ce secteur-là, avec des moyens qui étaient déjà au sol. Donc c'est pour ça qu'on a engagé les drones sur ce secteur-là, qui était un secteur à risque. On voit bien évidemment les premières actions qui sont faites au sol avec le drone, hein, sur des fumées qui sont blanches sur la partie haute. Il commence à être traité et il prend vite de l'ampleur. On le voit d'ailleurs par la couleur des fumées, hein, qui commence à devenir un peu rousse. Mais on voit que le panache de fumée commence à se coucher. Et donc c'est ce qu'on appelle la colonne de convection. Et donc le feu commence à créer sa propre météo, son propre vent, et commence à transporter des matières incandescentes chaudes sur le vallon d'en face, le Talweg d'en face, avec des sortes de feux qui vont jusqu'aux alentours de 500 à 600 mètres l'autre côté de la vallée. Alors, ça aurait été très difficile de l'empêcher. On aurait eu des hélicoptères ou des canadaires ou des avions bombardiers d'eau qui étaient encore sur notre chantier. Ça aurait été probablement possible de le taper d'entrée et de le stopper d'entrée. Mais c'est vraiment très aléatoire, il faut-il que l'avion soit là à ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit en noria, parce qu'on a des délais de noria qui sont assez longs aussi en fonction des avions. Donc voilà, la difficulté de nos secteurs aussi, c'est qu'on a très peu d'accès sur les massifs forestiers, et donc ça nous complexifie les interventions. Quoi.
Les pompiers m'apprennent également une dernière chose. C'est en partie parce que ces images vues de drone ont été envoyées au commandement régional, que des avions ont pu être libérés pour revenir en Aveyron pour faire quelques largages en toute fin de journée. Trop tard pour sauver les centaines d'hectares de plus déjà gagnés par le feu, mais à temps pour éviter que l'incendie ne se propage au-delà du plateau. Mais alors que la nuit tombe, tous les hameaux isolés ne sont pas encore en sécurité. S'engage alors, durant cette nuit de pleine lune, une dernière grande bataille contre le brasier.
C'était Résonance du feu, épisode 2, Vivre avec le feu. Une série documentaire écrite et réalisée par Elsa Souchet et produite pour Radio Larzac. Un projet soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre d'une résidence de journalistes sur la commune de Mostujuls en Aveyron. À suivre sur radiolarzac.org.